c'est Chanel. Vous écoutez l'émission 10 minutes avec. Et aujourd'hui, comme hier, je suis avec Julien Drouin. Dans l'épisode précédent, Julien nous a fait découvrir la Fresque du Climat, cette association qui souhaite rendre accessible le fonctionnement, l'ampleur et la complexité des enjeux liés au dérèglement climatique. Le tout au travers d'ateliers participatifs où chacune et chacun est libre de s'inscrire. Si vous avez raté ce premier épisode, ne vous inquiétez pas. Il est disponible dès à présent en podcast sur le site internet de Radio Alliance Plus, dans la rubrique « Et c'est logique, 10 minutes avec ». Pour ce second épisode, Julien vient nous parler de discours, de rhétorique, de la manière dont une parole peut agir sur les personnes qui l'écoutent. Non, promis, vous n'aurez pas la peut-être désagréable impression pour certains d'être assis en cours de philo au lycée. C'est le fameux passage de la théorie à la pratique auquel on ne croyait pas vraiment à l'époque. Peut-être même que, une fois l'épisode écouté, vous aurez les clés pour ne plus être déprimé par la future discussion qui vous attend, celle que vous reportez depuis des semaines parce que vous savez déjà que votre interlocuteur n'a aucun avis en commun avec vous. Ça vous tente ? Alors c'est parti. Salut Julien !
Bonjour Chanel !
Alors pour situer ton propos, on peut peut-être commencer par évoquer une formation que tu as suivie, la formation ESE pour écologie, santé, éthique, qui vise à acquérir la capacité à animer des ateliers, mais aussi tout simplement à avoir un discours légitime et argumenté sur divers sujets sociétaux. Est-ce que tu veux bien nous en parler de cette formation ?
Bien sûr. Alors j'ai suivi en octobre 2023 cette formation certifiante délivrée par l'organisme EDENI, donc formation en approche ESE pour écologie, santé et éthique. C'est une approche qui vise à mettre l'écologie, la santé et l'éthique au centre de toute décision afin d'apporter une réponse cohérente aux problèmes environnementaux et sociaux actuels. Voilà, l'objectif de cette approche est de diffuser les connaissances nécessaires à la prise de décision à un maximum de personnes afin que chacun et chacune possède les clés de lecture permettant de déterminer si une pratique, un choix, un produit est vertueux ou non.
Et de ce que j'ai pu voir, c'est une formation qui est quand même pas mal axée sur le langage et sur la discussion entre les uns et les autres, finalement.
Tout à fait. Alors, comme pour tout discours, il va y avoir ce qui l'appuie, les preuves, les connaissances qui le sous-tendent. Donc, dans cette formation, il y avait toute une approche, justement, holistique pour considérer certains aspects et prendre un point de vue global, pour considérer tous les aspects et avoir un point de vue global. Et c'est à travers ce socle qu'ensuite on va pouvoir essayer d'incarner le discours, essayer de vérifier que son éthique est en accord avec ce qu'on prononce comme discours, vérifier que on ne crée pas un problème en apportant une solution à un autre problème, et essayer d'avoir un discours qui cherche à convaincre, bien sûr, nos interlocuteurs, mais à le faire d'une manière qui permet à toutes et à tous d'acquérir les connaissances nécessaires à faire leur propre choix.
Ok, donc on va refermer cette parenthèse ESE, c'était pour situer la discussion qui va venir, à laquelle on va peut-être poser les bases. Quelles sont les différentes modalités du langage ? Alors, j'insiste juste, le terme modalité, il peut un peu faire peur, il peut faire penser que le sujet va être complexe, mais finalement, on est vraiment sur des choses que tout le monde fait. C'est la communication, c'est la manière d'être face à l'autre. Qu'on aime ou qu'on déteste les rapports humains, on reste finalement un animal social. Donc ces modalités, eh ben, elles concernent chaque auditeur et chaque auditrice. Et c'est bon, je te laisse parler maintenant.
Et mais moi, je vais m'inspirer de Kliment Viktorovitch, qui est un docteur en sciences politiques et qui enseigne la rhétorique, et qui, dans son ouvrage Le pouvoir rhétorique, répond à la question que tu viens de me poser en décrivant 4 dynamiques au total, qui, peu ou prou, peuvent refléter toutes les interactions qu'on a lorsqu'on cherche à échanger avec d'autres ou à convaincre. Et donc, parmi ces 4 dynamiques, il y a tout d'abord le monologue. Donc, on est face à quelqu'un qui peut, j'étais tout seul au micro, adapter son ton, son discours, avoir tout le temps qu'il veut pour dérouler son argumentaire et chercher à convaincre son auditoire. Il y a ensuite une délibération, une dynamique délibérative. Donc, on va avoir plusieurs personnes qui cherchent mutuellement à se convaincre et à trouver un consensus. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait avoir quand on est à table avec ses frères, avec ses sœurs, avec ses parents, lorsqu'on est dans un bar, lorsqu'on est entre collègues autour de la machine à café. il y a une troisième dynamique qui est une dynamique compétitive. Donc là, on sent qu'on n'est pas totalement aligné avec la personne avec qui on est en train de débattre, et il y a un auditoire qu'on cherche à convaincre. Lorsqu'on va du coup s'adresser à notre interlocuteur au sein du débat, les personnes qu'on cherche surtout à convaincre, ce sont celles qui nous écoutent. Et donc là, on ne va pas forcément chercher à trouver un consensus avec la personne en face de nous, ou les personnes en face de nous, parce qu'il n'y a pas forcément de terrain d'entente, mais on va chercher à convaincre les personnes qui assistent à ce débat. Et il y a une dernière dynamique, qui est la pire, c'est la dynamique conflictuelle. C'est celle où personne ne veut s'accorder sur les faits, ça s'écharpe. C'est souvent la discussion qui dérape au sein d'une soirée ou en pleine journée, et la toxicité de la discussion fait que tout le monde s'en écarte. Malheureusement, c'est aussi le genre de discussion qui rapidement peut en venir aux mains et qui laisse place à la violence. Donc c'est quelque chose qu'on cherche à tout prix à éviter lorsqu'on cherche à discuter avec ses interlocuteurs, débattre et convaincre.
Oui, il n'y a pas d'échange dans ce dernier. Et toi, dans ton quotidien, que je me permets de qualifier de militant, dans diverses actions auxquelles tu participes, pour une justice sociale et climatique la plupart du temps, en quoi le discours est essentiel ?
Eh bien, quand je vais rencontrer quelqu'un dans la rue, lors d'un atelier, lors d'une manifestation, lors d'un échange dans le train, cette personne n'a pas accès à la liste de toutes les choses que j'ai faites. Cette personne n'a pas accès à qui je suis, je n'ai pas accès à ce qu'elle dit, ce qu'elle fait tout au long du quotidien. Et il faut du coup réussir, la plupart du temps très rapidement, à condenser quelles sont nos orientations, quels sont nos arguments, quelles sont nos preuves, dans un discours qui fait sens pour nos interlocuteurs. Et si on a reçu une formation, par exemple d'ingénieur comme je l'ai reçu, on a tendance à vouloir tout déballer, à vouloir lister tous les arguments, à vouloir lister tous les points, être exhaustif, et c'est un puits sans fond. Donc, face au souci de concision et au besoin de pouvoir s'adapter aux différentes dynamiques qu'on a citées plus tôt, le monologue, la délibération ou la compétition, il y a besoin de travailler son discours, travailler sa cohérence, travailler les points sur lesquels on peut s'appuyer et les mécanismes qu'on va utiliser pour chercher à faire avancer les débats, faire en sorte que les gens puissent acquérir les connaissances qu'on essaie de leur transmettre, où est la curiosité d'aller creuser les sources qu'on cite et qui puissent ensuite eux-mêmes porter ce discours ou l'adapter.
Et là, je vais prendre un exemple qui peut, je pense, intéresser les personnes qui nous écoutent. Alors, ce n'est pas personnel, mais j'ai pu assister à la situation plusieurs fois et je pense que c'est de plus en plus présent lors de repas. Typiquement, une personne a fait le choix de ne plus manger de viande. Elle va l'exprimer sans incriminer quiconque et pourtant, beaucoup vont lui tomber dessus avec en plus des phrases complètement bidons, comme s'ils étaient presque insultés et qu'ils devaient se défendre de quelque chose, alors que, pour rappel, la personne n'a rien verbalisé sur leur comportement à eux. Alors pourquoi ? On se situe où, là, dans le langage, dans l'échange ?
Eh bien, on se situe dans ma vie actuelle. Parce que ça fait 3 ans que je suis végétarien, ça faisait des années que j'avais réduit ma consommation en viande pour des considérations éthiques. Et ce que tu viens de décrire, c'est la discussion que j'ai eue avec mes parents, c'est la discussion que j'ai avec des collègues, c'est la discussion que j'ai quasiment tous les jours, à chaque fois qu'arrive le moment où on me propose viande ou poisson, et que je dis « non, les accompagnements, s'il vous plaît voilà. ». Et donc, face à tout ça, il y a toujours déjà des valeurs personnelles qui vont rentrer en ligne de compte, mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les arguments qui sont avancés par les uns et les autres. Lorsqu'on va me demander « Mais toi, Julien, pourquoi t'es végétarien ?» Enfin, t'as pas l'air d'un végétarien. Je veux dire, tu fais 1m92, t'as l'air en forme et tout. T'es pas tout pâle, t'as pas des cernes sous les yeux. Donc, il y a énormément de préjugés qui rentrent en compte sur le besoin impérieux de devoir manger de la viande pour être en bonne santé. Alors qu'il y a plein de populations dans le monde qui ne mangent pas de viande et qui sont en très bonne santé. Et ensuite, je vais dérouler des arguments. Je vais dire que je considère que réduire l'utilisation des pesticides, augmenter les protéines d'origine végétale dans mon alimentation, réapprendre à cuisiner les fruits et légumes locaux et de saison, mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation, tout ça, c'est des sujets qui peuvent paraître déconnectés les uns des autres, que moi, je relie à travers le fait d'être végétarien et que j'étends du coup à toutes ces dimensions, et qui permet de présenter des solutions qui présentent le plus de co-bénéfices pour notre santé, la lutte contre les inégalités, la réduction de nos impacts sur le climat et la biodiversité, une meilleure gestion de la ressource en eau et une meilleure autonomie alimentaire. C'est souvent ce que moi j'utilise pour dire voilà, je suis végétarien pour toutes ces raisons-là. Il y a toutes les considérations éthiques en plus que je rajoute si les personnes, je sens qu'elles ont envie d'aborder ces sujets-là. Et ensuite, les premiers arguments qui vont s'élever contre ce que je viens d'avancer sont des questions de goût personnel, d'habitude, des opinions sur le plaisir de partager une bonne pièce de viande autour d'un barbecue, ce que j'ai pu faire par le passé, le plaisir gustatif d'une bonne charcuterie, des arguments sur la nécessité impérieuse de manger de la viande, et en bonne quantité si vous êtes en bonne santé, alors que les études scientifiques disent le contraire. Et là, on arrive sur un niveau de preuve différent, où, face à nos opinions divergentes, à nos habitudes divergentes, on essaie de dire, ok, mais de quoi a-t-on vraiment besoin pour être en bonne santé? Et comme je me mets à ce moment de la discussion la plupart du temps à citer les études qui prouvent que manger végétarien ou réduire la viande, c'est meilleur pour la santé, parce que les études qui montrent l'élévation du maladie cardiovasculaire, du cancer en hausse. C'est à ce moment-là, souvent, la discussion que je perds mes interlocuteurs, parce que la volonté des uns et des autres de confondre opinion et fait, opinion et études scientifiques, opinion et méta-analyse scientifique, donc une étude qui fait la synthèse des autres études, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours réussir à condenser dans la discussion dans le train, dans la discussion avec ses parents, dans la discussion au bar. Et c'est sur ces points-là d'achoppement que souvent la discussion bute. Parce que bah, dans la manière de conduire l'argumentation et les discours, dans la manière d'échanger sur quels sont les éléments à prendre en compte pour choisir nos modes d'action, quelles sont les valeurs qui sous-tendent nos actions, bah, on n'est pas forcément d'accord pour dire que une étude scientifique a plus de valeur qu'une opinion rapportée, a plus de valeur que
l'émotion.
Que l'émotion et ses goûts personnels, qui sont encore une fois extrêmement dépendants de là où on est né, de ce que les gens font autour de nous et de tout un tas de facteurs qu'on a tendance à vouloir dire « Non, mais ça, c'est moi, je suis au-dessus de ça, ça ne m'influence pas, c'est mon choix. »
Eh bien, c'est la fin de ces 10 minutes avec Julien Drouin. Je suis vraiment très contente de vous avoir permis de l'entendre. J'espère que vous avez pu comprendre ou apprendre des choses, que vous avez pu vous dire aussi qu'une discussion est finalement possible ou qu'elle ne l'est pas, et dans ce cas, ce n'est pas si grave. Il y aura d'autres personnes qui comprendront ce que vous exprimez. N'hésitez pas donc à défendre vos idées, surtout si elles sont favorables au plus grand nombre. Merci beaucoup Julien pour ton engagement au quotidien, en terrasse de Café Nîmois ou lors de réunions bien plus sérieuses. Et merci pour ces 10 minutes.
Merci beaucoup Chanel.